Quand tu as cette volonté d'être toi-même un créateur d'entreprise ou de créer des choses ou d'innover, là, il faut trouver les bons repères, les bons modèles, parce que sinon, tu vas vite faire les mauvais choix. Le mauvais entrepreneur n'a jamais le temps. Un bon entrepreneur, c'est trouver 5 minutes, répondre rapidement, traiter les sujets prioritaires, accorder du temps aux autres, mais aussi, c'est trier.
Vous êtes créé en 2016, vous êtes 45 et vous êtes avec nous pour recruter à midi beaucoup de tech, mais pas que. Commençons par le mais pas que. Vous cherchez des commerciaux pour vous aider à continuer à grossir.
Exactement. Depuis notre création, on a une croissance d'à peu près plus de 100%.
Tu as tout intérêt à être proche de tes concurrents, savoir ce qu'ils font et potentiellement bosser avec tes concurrents. Inciter les gens à être réactifs. Le bon dev, c'est celui qui va dire « Ok, je sais faire par étapes. » Franchement, plus de la moitié de nos idées, de nos bonnes idées viennent de nos clients. Le contexte de ta vie perso va faire que tu prends des décisions sur le pro qui sont à chaque fois différentes. Mon premier réflexe au moment où je me dis je vais créer une banque en ligne pour les professionnels, c'est de m'associer à une banque. N'importe qui peut réussir, ça c'est la réalité. Trop de mauvais entrepreneurs.
Hello les aventuriers, j'espère que vous allez bien. Je viens d'avoir un échange passionnant avec Adrien Toiti, le fondateur de la banque en ligne Manager One. Rien ne lui était prédestiné, il a commencé à entreprendre très jeune. Il vient du 93, son mentor c'est Xavier Niel et il nous partage un peu tous ses conseils, comment il a réussi ses différents projets, comment il gère son temps, l'équilibre pro-perso, comment entreprendre et se lancer son projet, comment réaliser ses rêves. Restez bien jusqu'au bout, c'est hyper intéressant. Allez.
Enchanté Adrien.
Enchanté Adrien, ça va être facile sur les prénoms aujourd'hui.
Ouais, on va pas se perdre. Merci beaucoup à toi d'être là.
Et merci de m'accueillir.
Alors du coup pour la petite anecdote, moi je t'ai connu tout simplement parce que je suis client de votre banque, de ta banque, de la banque Manager One. Je trouvais qu'il y avait une superbe expérience utilisateur et j'avais envie d'en savoir un peu plus sur le fondateur qui l'a créé et du coup je t'ai contacté et tu m'as répondu super gentiment, super rapidement. On a fait un petit call, et ça a été super sympa et donc je suis ravi de t'avoir aujourd'hui avec moi.
Écoute, je suis ravi de t'avoir comme utilisateur parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un utilisateur pour parler finalement d'un produit. C'est super objectif et je suis ravi de partager ce moment avec toi.
Donc du coup, Manager One, c'est une banque qui s'adresse plus aux professionnels si je ne me trompe pas. Est-ce que pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu pourrais un peu te présenter rapidement déjà ton parcours, après on va aller un peu plus en détail, en profondeur sur certains sujets.
Ouais, effectivement, c'est une banque même que pour les professionnels, exclusivement pour les professionnels et plutôt des typologies de clients type PME, ETI, grande boîte, pour faire de la dépense pro et après pour des boîtes qui débutent avec toutes les fonctionnalités qu'on retrouve. Alors parcours d'entrepreneur, finalement c'est toute une vie d'entrepreneuriat. J'ai fini mes études en 2009. J'ai fait une école d'ingénieur qui s'appelle l'EFRE. Okay. J'ai été à l'EFRE parce que les personnes clés de chez Iliad, la maison mère de Free, on en parlait tout à l'heure, sont passées par l'EFRE. Et donc, naturellement, je me suis dit, je veux faire cette école. J'avais postulé après le bac qu'à une seule école d'ingénieur.
Ouais, okay.
C'était pour moi une évidence d'aller à l'EFRE. Je voulais aller à l'EFRE. Et par chance, quand j'ai postulé à cette époque-là, on prenait les étudiants sur dossier et motivation. Et pas sur concours, comme ça peut être un peu plus le cas aujourd'hui. Et donc, ça m'a permis de rentrer parce que je pense que si ça avait été un concours, j'aurais pas été pris. donc, je rentre à l'EFRE, je passe des belles années, je fais ma scolarité là-bas, scolarité qui est en partie en plus prise en charge par Iliad, donc la maison mère de Free. C'était super important pour moi d'avoir cette aide financière. J'avais mes parents en plein divorce et de payer une école d'ingénieur, c'est pas forcément à la portée de tout le monde, hein, il faut dire les choses. Scolarité qui se passe relativement bien sur la fin du cursus, plus que sur le début du cursus, parce que le début du cursus est très théorique, la fin du cursus très pratique. Et sur la partie pratique, honnêtement, c'était assez facile. Sur la partie théorique, beaucoup plus compliqué. En parallèle de mes études, je bosse déjà un petit peu pour Free sur différents sujets. En l'occurrence, tout ce qui est contrôle parental. C'était important d'avoir un logiciel de contrôle parental, même une obligation pour les fournisseurs d'accès à Internet à l'époque. 2009, je finis mes études. Je pense pouvoir bosser pour Free, naturellement. Je me dis, tiens, je vais aller bosser chez Free. Et là, je me prends un gros stop du fondateur qui me dit, fais autre chose de ta vie, pour faire simple. Et donc, je me décide à créer mon entreprise, ma première entreprise qui s'appelle GoProd et qui finalement devient au fil du temps une agence de développement d'applications web et mobile pour des tiers. Très rapidement, je comprends que le métier d'agence, ça rapporte de l'argent, parce qu'il y aura toujours des boîtes qui ont besoin de toi pour faire des développements, mais que c'est un métier un peu pénible. Et je me dis, bah, je vais aller créer finalement une application mobile autour de la télé, parce que j'avais eu beaucoup d'expérience autour de la télé chez Free. Et donc, je crée une application télé. Et au même moment, je deviens éditeur de la marque Télé Loisirs sur la partie mobile. Et donc, je lance l'application Télé Loisirs en 2011, qui devient un gros succès parce que je reprends finalement toutes les fonctionnalités que j'avais pu mettre en place chez Free, à savoir l'enregistrement à distance de la télé, l'alerte de diffusion de programmes, la télécommande sur mobile, etc. 2011, donc lancement de Télé Loisirs. En 6 mois, ça devient une des applications mobiles, si ce n'est l'application mobile française la plus utilisée.
Ah ouais, ok.
Et tout ça sans avoir la télé, hein. C'est ça la beauté du truc. Et en 2015, on est racheté par Prisma Media, donc le propriétaire de la marque Télé Loisirs. Et en 2016, je commence à réfléchir sérieusement à me lancer dans une nouvelle aventure. Et finalement, le point commun de tout entrepreneur, c'est qu'il a un compte bancaire. Ça n'existe pas un entrepreneur sans compte bancaire. Mais l'ouverture du compte bancaire est parfois super pénible. Ça peut prendre des jours comme ça peut prendre des semaines. Mmh. Et donc, je me dis, allons créer le compte bancaire que moi, j'aurais aimé avoir au moment où je me suis lancé dans toutes ces aventures. Et c'est finalement comme ça qu'est né Manager One.
Ok, hyper intéressant. D'ailleurs, en t'invitant, en fait, je viens de me le faire maintenant, j'avais pas fait le rapprochement, mais il y a 2 semaines, j'ai eu un autre invité qui il s'appelle Roux Savard, et lui, il a monté aussi une banque qui s'appelle Welcome Account.
Ouais.
Et il a fait un peu le... Bah, tu les connais peut-être, du coup.
Ça me parle, ouais, effectivement. C'est... T'es un entrepreneur, tu veux te lancer, les banques vont te dire « donne-moi un business plan, c'est quoi tes besoins de financement ?»« Non, je veux juste un compte pour travailler. » Ça, ils vont avoir du mal à le comprendre. T'es une personne qui débarque en France. En fait, d'un point de vue LCBFT, c'est finalement les maîtres mots au sein d'une banque aujourd'hui, lutte contre le blanchiment, financement terrorisme. Ils te disent « non, j'ai pas envie de te donner de compte. C'est quoi tes justificatifs de domicile ?»« Oui, mais je viens d'arriver en France, moi, je m'en fous, t'habites où ?» etc. Donc, l'accès au compte était très compliqué il y a 10 ans, aujourd'hui beaucoup moins. La réalité, c'est qu'aujourd'hui beaucoup moins, parce qu'il y a des acteurs comme moi qui sont arrivés sur le marché, je suis pas le seul. Sur le pro, il y en a quelques-uns, même s'il y en a de moins en moins, parce que la moitié sont fermés entre-temps. Et sur le particulier, tu as des très gros acteurs qui ont démocratisé l'accès au compte. Ça aussi, c'est une réalité, et tant mieux. Même si à un moment, ils l'ont trop démocratisé, et là, tu vois que ça a ses limites. Les régulateurs commencent à taper du poing et dire attention, ouais. T'as beaucoup de mauvais comptes, bon, va falloir limiter le nombre d'ouvertures de comptes, ou va falloir faire plus attention, ou je te donne pas ta licence, ou je te retire ta licence, etc. Donc on est un peu dans l'effet inverse de ce qu'on a vu pendant les 10 dernières années, c'est-à-dire plein de nouveaux acteurs, plein de possibilités d'ouverture de comptes, et là, à une nouvelle consolidation, fermeture des acteurs et un peu plus de rigueur.
Dans ta présentation, il y a un truc qui était intéressant, c'est, enfin, je trouve que tu dis que tu as cherché à faire une école d'ingénieur parce que c'était là où il y avait beaucoup de gens de l'Iliade, pourquoi, enfin, de Free, pourquoi tu as...
Pour moi, et ça reste le cas aujourd'hui, la plus belle success story de ces 20 dernières années en France, c'est de très loin l'Iliade.
Mais toi, tu étais jeune, tu avais moins de 18 ans, j'imagine.
J'avais 17 ans, ouais, 16-17 ans, au moment où Free se lance sur le haut débit.
Ok, donc tu as cherché à... Tu connaissais pas Xavier Niel, tu connaissais pas... Enfin, tu as vu que c'était une success story et tu as cherché
à... Je suis l'abonné 5076 chez Iliade.
5076.
C'est précis, tu vois. Je suis l'abonné 5076 quand Free s'est lancé sur le haut débit en France.
Ouais.
J'ai été le 5076e mec à se dire, je vais aller leur faire confiance et prendre une Freebox. Et je peux te dire que les premières Freebox, elles cramaient. Je peux te dire que les premières Freebox, il y avait des soucis. C'était pas simple au démarrage. Et qu'est-ce que tu fais quand t'as 16, 17 ans et que tu te poses pas spécialement de questions, quand ta box déconne, t'écris au mec qui a la boîte ou qui est derrière la box. Énorme. Et tu lui dis, j'ai un problème, j'arrive pas à me connecter. Et à l'époque, dans les prises, t'avais des condensateurs. Ça parle à plus personne aujourd'hui. Parce que tout le monde a la fibre, etc. Mais avant, tu avais des prises gigognes dans lesquelles tu branchais un espèce d'adaptateur. Il y avait ton téléphone par-dessus. Enfin, c'était des galères pas possibles. Aujourd'hui, ça me paraît tellement loin. Mais à l'époque, c'était ça, les débuts de Free. Aujourd'hui, c'est une boîte plus classique. Mais à l'époque, c'était une start-up. Et quand tu vois cette start-up qui... Mon seul regret, c'est finalement de ne pas avoir mis le peu d'économie que j'avais au démarrage en bourse sur Iliade, quoi.
Ouais.
Parce que mon sentiment, c'était que cette start-up allait révolutionner l'écosystème français, les télécoms en France. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça que je voulais absolument, finalement, suivre le cursus de personnes comme Antoine Levavasseur, comme Rani Assaf, et j'en passe. Il y en a d'autres qui sont passés par les frais qui sont chez Iliad aujourd'hui. Et pour moi, ces mecs étaient des génies, ils le sont toujours. C'était vraiment des pionniers. Et on a, encore une fois, à mon sens, on n'a pas d'aussi belle success story aujourd'hui. Et c'est dommage, il en manque. Il en faudrait plus.
Ok. Ouais, c'est hyper intéressant parce que souvent, moi, je me souviens, même moi, quand à la fin des études, on peut être un peu perdu, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire en tant que cursus, etc. Et en fait, peut-être plutôt regarder des entreprises qui nous inspirent ou des patrons qui nous inspirent et suivre le...
Des modèles, ouais. Et des mentors. Ça manque cruellement. Aujourd'hui, quand tu vois que les jeunes passent leur temps sur des réseaux sociaux à regarder des espèces d'influenceurs complètement débiles, ça fait peur. C'est pas ça les bons modèles, c'est pas ça les bons mentors. Les bons modèles et bons mentors, c'est pas ceux qui vous promettent la lune, hein. C'est ceux qui bossent pour eux, qui vont parfois vous accorder un peu de temps par miracle parce que tu montres que t'as un peu de volonté. Voilà, moi les modèles, c'était ces gens qui sont passés par cette école et qui font des choses quotidiennement. Les mentors, on en a cité un, il y en avait eu un autre, Raphaël Adjan, qui était un des premiers à créer un opérateur télécom en France, etc. Voilà, c'était mes repères et c'était aussi important à un moment de ma vie où finalement la figure paternelle n'existait plus vraiment, où t'as 18, 19, 20 ans et t'as besoin de repères. C'est aussi une question d'histoire de vie. Mais voilà, à chacun, je pense, d'aller trouver les bons modèles et les bons mentors, c'est super clé dans l'histoire d'une vie, surtout quand on veut être entrepreneur. Quand t'es pas destiné à être entrepreneur ou quand t'es pas destiné à vouloir créer des choses, tu t'en fiches. Tu vas aller suivre des modèles plus classiques, il n'y a pas de problème. Trouve la belle boîte où tu veux bosser, trouve les sujets, les domaines qui t'éclatent. Voilà. Par contre, quand tu as cette volonté d'être toi-même un créateur d'entreprise ou de créer des choses ou d'innover, là, il faut trouver les bons repères, les bons modèles, parce que sinon, tu vas vite faire les mauvais choix.
Bah après, ouais, t'as dit pour être entrepreneur, mais même dans la vie perso, je sais pas, pour être sportif ou autre démarche personnelle, ça peut être intéressant de...
Un sportif, un artisan, pour moi, c'est des entrepreneurs, tout ça.
Ouais, ok.
Les médecins, tout ça, pour moi, sont des entrepreneurs de la vie. Tu appelles ça les aventuriers de la vie.
Pour moi, ça
pourrait être les entrepreneurs de la vie. Et ils vont créer des choses à leur façon, avec leurs moyens, avec leurs méthodes. Voilà. Mais un sportif est un entrepreneur. Il va essayer de trouver des solutions, il va essayer de trouver des sponsoring, du cash, se surpasser. Enfin, voilà. Finalement, on pourrait faire des parallèles entre toutes ces personnes. Et si tu prends toutes ces personnes, elles ont un point commun, finalement. C'est un, la motivation, la pugnacité, l'envie, etc. L'envie de se dépasser et aussi d'apporter quelque chose d'une façon ou d'une autre.
Ouais, c'est exactement ça, justement, un peu à la base, quand j'avais créé le podcast, mais Aventurier de la vie, c'est vraiment inviter des mentors, mais qui sont pas forcément des entrepreneurs au sens comme on l'entend. C'est des comédiens, des acteurs, et pareil, ils doivent entreprendre, chercher des managers, des agents, trouver leurs films, etc. Et ouais, comme tu le dis, faut être déterminé, motivé. Et justement, cette relation, toi, avec ces mentors, ces deux, trois, t'en as cité deux, trois. Comment, parce qu'il faut pas être trop ils ont pas beaucoup de temps en général, même moi, on a fait un call il y a deux semaines, tu m'as donné pas mal de conseils et moi j'ai pas envie d'avoir le sentiment de t'embêter, tu vois, à poser des questions.
Donc, c'est la différence entre un bon entrepreneur et un mauvais entrepreneur.
Ok.
Le mauvais entrepreneur n'a jamais le temps, voilà, c'est simple. Le mauvais entrepreneur te dira toujours « j'ai pas le temps, on fait ça dans 3 mois, là c'est pas ma priorité, là j'ai pas 5 minutes à t'accorder ». Ça, c'est un mauvais entrepreneur. Un bon entrepreneur, il sait trouver 5 minutes, il sait répondre rapidement, il sait traiter les sujets prioritaires, il sait accorder du temps aux autres, il sait écouter les autres, mais aussi il sait trier. Attention, le mauvais entrepreneur, il va être vite dépassé parce qu'il prend plein de sujets de merde. Plein de conneries qui vont lui pomper 90% de son temps et qui servent à rien. Le bon entrepreneur, il va savoir arbitrer, de dire attention, là c'est pertinent que je m'y consacre et j'y passe un peu de temps. Donc finalement, quand tu vas solliciter un bon entrepreneur, si tu as une vraie problématique, si tu as un vrai sujet ou s'il y a quelque chose derrière, il trouvera toujours du temps. Toujours du temps, tu vois. Et je vais te prendre l'exemple, j'ai envoyé hier un mail pour dire j'ai quelqu'un de ma boîte qui a un problème de connexion. On m'a répondu dans la journée, Tu vois, on trouve toujours du temps quand il faut en trouver. Voilà. C'est vraiment ça. Les mauvais entrepreneurs, et il y en a un paquet, ils savent pas trouver le temps. Et j'en vois encore un paquet. Vraiment. Il y en a, je l'ai sollicité parce que j'ai deux exemples en tête, ouais, très précis. Je bosse sur une verticale autour de la santé avec Manager One. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on fait des moyens de paiement avant tout chez Manager One. On fournit des cartes de paiement, que ce soit des cartes physiques ou virtuelles. Et on a attaqué toute une verticale autour de la santé qui consiste à dire arrêtez de payer vos soins de santé. Votre assurance, votre mutuelle peut vous donner à disposition un moyen de paiement pour payer à votre place et éviter de rentrer dans un parcours de remboursement. Concrètement, c'est quoi? C'est, par exemple, on a un client qui s'appelle April International.
Ah, bah, je suis chez eux.
Bah, voilà. Tu as une assurance chez April International. Demain, tu vas aux États-Unis, tu te casses la jambe. Plutôt que d'aller à l'hôpital et payer et demander à te faire rembourser, April International va te mettre à disposition un moyen de paiement pour payer tout de suite l'hospitalisation en fonction de tes garanties. Problème réglé. C'est ça, en fait, l'ADN de notre job. C'est de simplifier nos parcours, les parcours utilisateurs, simplifier la vie de nos clients et des clients de nos clients. Et donc, bah, il y a des acteurs qui font des choses similaires à ça, hein, sur le marché. J'en approche
en
un
France ou...
en France et probablement à l'étranger. J'en approche un pour voir s'il y a des synergies. Le mec répond, non, désolé, je peux pas te parler avant juin. Ok, tu peux pas me parler avant juin, pas de problème. Et autre exemple, mais tout chaud, on bosse sur les cartes essence. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, tu as des groupes comme Total & Co qui fournissent des cartes essence, sauf que ces cartes sont bloquées à une station essence ou à une marque. Nous, l'idée, c'est de dire non, on va fournir des cartes qui marchent chez tout le monde. Carrefour, Intermarché, Leclerc, etc. Sauf qu'aujourd'hui, fournir des moyens de paiement pour les stations essence, c'est bien. Mais ce qui est mieux, c'est de coupler cette carte de paiement à des recharges véhicules électriques. Donc, qu'est-ce que je fais naturellement? Moi, quand j'ai un client qui me dit « j'ai besoin de 500 cartes essence, mais j'aimerais bien que tu rajoutes les véhicules électriques », je vais regarder qui est bon sur ce marché-là. Ouais. Je vais les contacter naturellement. Je regarde et il se trouve que j'avais déjà contacté quelqu'un en 2021.
Ouais,
et s'il voit le podcast, j'en suis ravi. Et j'espère. Je l'ai déjà contacté en 2021. Pour être plus précis, c'est lui qui me contacte en 2021 parce qu'il se dit « ça serait bien que je rajoute sur mes cartes de recharge véhicule électrique la partie carte de paiement pour avoir un bundle complet ». Je le recontacte là, la semaine dernière. Le mec me dit « recontacte-moi Q4 ». Je dis « mais c'est quoi ce bordel ?» Les mecs prennent quand même 10 minutes pour savoir s'il y a un sujet ou pas. On va pas attendre Q4 pour voir s'il y a des synergies ou pas. Et c'est ça un mauvais entrepreneur. Et ça, c'est une réalité, ce sont des mauvais entrepreneurs. Et si c'était des bons entrepreneurs, de toute façon, leur boîte aurait déjà explosé 10 fois depuis le temps. Un mauvais entrepreneur prend pas le temps d'écouter ou de saisir les bonnes opportunités. Voilà. Et donc, le bon entrepreneur, quand tu le sollicites, il trouvera toujours le temps pour te répondre. Et c'est ça la différence.
Ah, c'est hyper intéressant, ça. Ça me fait rebondir sur deux choses, mais le premier ou même les deux, peut-être qu'ils ont, entre guillemets, voulu repousser parce qu'ils te voient un peu comme un concurrent. C'est peut-être ça que je me...
Alors, le premier, clairement, je suis un concurrent.
Ils ne veulent pas créer de synergies. Ils se disent que tu vas les copier ou que tu... Ils ne veulent pas chercher à créer des synergies.
Alors, le premier, clairement, je suis un concurrent. Mais tu as tout intérêt à être proche de tes concurrents, savoir ce qu'ils font et potentiellement bosser avec tes concurrents que de rester dans ton coin et enfermé. Et d'ailleurs, je vais te donner encore une autre anecdote. C'est bien, j'en ai plein.
Ouais, mais c'est intéressant. Ouais.
J'ai une banque en ligne pour les professionnels qui me contactent il y a peut-être un an et demi et qui me dit « bon, bah voilà, est-ce que tu serais susceptible de me racheter ?» Je lui dis « fine, donne-moi quelques informations pour faire simple, tes métriques.
Ouais.
Combien tu as de clients, quels sont tes revenus d'interchange, c'est quoi ton modèle, etc. » Les choses de base pour étudier un dossier finalement. Plus de son, plus d'image. Ok. Un an après, de nouveau le même acteur qui me sollicite et qui me dit « bon, bah voilà, là, en gros, on n'a plus d'argent, on est quasiment mort. Est-ce que mon dossier t'intéresse ?» Je te repose exactement les mêmes questions que je t'ai posées il y a un an. À un moment, si tu veux qu'on regarde ton dossier, il faut te donner de la data. C'est fini le temps des bisounours où tu as 4 clients et tu vas lever 100 millions. Il faut des choses un peu factuelles, un peu concrètes. Et au final, le mec n'avait finalement toujours pas donné de data. Parce que entre le discours qui transpire dans les médias et la réalité des chiffres, parfois les ratios, c'est plus que x10. Ils racontent n'importe quoi, les acteurs en place. Ça fait peur. Et donc, in fine, ils vont dans le mur. Et quand la réalité les rattrape, bah, c'est déjà trop tard. Donc, si tu restes dans ton coin, si tu veux pas communiquer de la data, si tu veux pas exposer tes forces et tes faiblesses, t'es mort de toute façon.
Ouais, mais du coup, par exemple, toi, ta première approche, je reviens là-dessus, parce que c'est intéressant de comment créer des potentielles collaborations ou partenariats ou synergies avec des concurrents. C'est une question limite perso, mais qui m'a intéressé beaucoup de monde. Moi, tu le sais, j'ai une plateforme dans l'immobilier. Je pourrais me dire, pareil, je vais me rapprocher d'un concurrent pour leur proposer une collaboration win-win. Mais comment
Écoute, là, c'était un call, savoir où on en est, où ils en sont, savoir s'il y a des choses à faire en commun, savoir s'il y a des appels d'offres sur lesquels on peut aller ensemble. Voilà, ça engage à rien. Tu vois, tu prends 2 minutes, ça engage à rien. Si tu commences à avoir peur de tous les acteurs en place et tu dis, je fais un call, je vais perdre la moitié de mes clients, arrête de bosser. Donc lui, clairement, il pouvait se dire, oui, je me sens fébrile pour aller voir quelqu'un qui peut bouffer mes clients.
Pas très serein, quoi, du coup.
Ok, ça s'entend. Mais bon, donne pas rendez-vous dans 3 mois, dis tu m'intéresses pas, on gagne du temps. Le deuxième, non, on est en pleine synergie. Il fait du véhicule électrique, on fait de la carte essence. De la carte essence, il y en a 150 000 qui font de la carte essence. Par contre, des mecs qui font bien des cartes pour de la recharge de véhicules électriques, il n'y en a pas 50 000. Je pense qu'il y en a moins de 5 sur le marché. Il y a une synergie évidente. Creuse. N'attends pas 6 mois. Là, on parle de 6 mois. N'attends pas 6 mois pour prendre 5 minutes. Tu vas me dire que tu n'as pas 5 minutes pour explorer un sujet et éventuellement arbitrer. Et si tu ne sais pas arbitrer en 10 minutes, tu es mal. C'est ça aussi les caractéristiques d'un bon entrepreneur. C'est qu'il va trancher rapidement. Ouais. Il va arbitrer rapidement. Il va pas mettre 6 mois à se décider sur un sujet.
Et c'est là déjà que tu vas gagner du temps, peut-être.
Bien sûr. C'est la différence entre les startups, finalement, ou qui arbitrent vite, qui tranchent rapidement, et les grands groupes. Les mêmes décisions dans une startup et dans un grand groupe.
Ouais, ça prend, c'est pas la même
durée. On est dans des ratios qui ont rien à voir. D'un côté, ça va prendre quelques minutes, de l'autre, quelques semaines. D'un côté, ça va prendre une journée, de l'autre, quelques mois. C'est ça la différence.
Ah, bah, tu réponds presque à ma question que j'ai posée, parce que, enfin, pour moi, justement, le temps, je sais pas ce que t'en penses, mais c'est un peu la currency la plus importante avant même l'argent. Toi, tu viens de dire que du coup, tu arrives quand même à trouver du temps, dégager du temps pour les choses importantes, etc. Comment, entre guillemets, tu valorises ton temps? Tu viens de répondre en partie plus ou moins, ou du coup, tu vas quand même réussir à prendre des décisions rapides, donc gagner du temps par rapport à ça. Mais est-ce que tu vois d'autres... J'aime bien en général parler un peu de la gestion du temps global. On l'aborde plutôt à la fin du podcast, mais là, vu qu'on en parle un peu, comment tu... Si tu as juste un ou deux autres commentaires à dire par rapport à ça, comment tu gères ton temps, quoi?
Déjà, ça rejoint un autre sujet, c'est l'équilibre pro-perso.
Ouais, équilibre pro-perso. Ouais.
Voilà. J'ai 3 enfants.
D'accord, ok.
Ma femme bosse probablement plus que moi. Elle est urologue. Je suis en train de l'accompagner aussi sur un projet entrepreneurial.
Ok.
Tu vois, je pense que certaines personnes nous regardent en se disant c'est des extraterrestres. Et pourtant, on trouve du temps pour nous, du temps quali pour nous, pour elle et moi. Ça, c'est super important, c'est un pilier. Si déjà toute ta partie perso te bouffe pas la tête, c'est beaucoup plus simple la partie pro. Ça, c'est super important et ça, les gens n'ont pas forcément conscience. Si t'as aucun sujet perso, si tout est simple sur la partie perso, la partie pro est beaucoup plus simple à aborder. Et sur la partie pro, c'est ce que je te disais plus tôt, finalement, tu vas arbitrer très rapidement. Okay, tu ne vas pas te mettre 50 réunions qui ne servent à rien. Ça, tu fais une croix dessus et tu essaies de mettre en place une politique justement autour de ça et expliquer à tes équipes qu'il ne faut pas être dans une surconsommation de réunions et parfois ne pas se forcer à faire une réunion. Un simple mail ou un échange sur Teams suffit amplement pour avancer. Inciter les gens à être réactifs. Ça, c'est super important. Moi, je vois, j'ai certains collaborateurs, ils sont pas suffisamment réactifs. Ils vont laisser traîner des choses. Et ce que j'essaye d'expliquer aussi, en interne, finalement, c'est 3 piliers. Qu'est-ce qui est important? Ce qui est important, c'est les choses qui foutent la merde dans ton business. Ce qu'on appelle les choses critiques auxquelles il faut apporter un hotfix. Ça, c'est numéro 1. La chose numéro 2, c'est ce qui rapporte de l'argent. Donc en termes de priorité, c'est ce qui fout le bordel, ce qui est critique, ce qui pose des bugs, etc. en production. Numéro 2, ce qui rapporte de l'argent.
Donc, j'aurais inversé.
Alors, si ta production ne marche plus, ton business est mort, tu perds in fine de l'argent. Numéro 2, générer du cash. Donc, répondre aux clients, apporter de nouvelles fonctionnalités sur du moyen long terme qui te génère plus de cash. Numéro 3, ce qui est simple, ce qui te prend quelques minutes, quelques secondes, ne pas attendre des mois. J'en reviens finalement à mon exemple d'avant. Faire un call de 5 minutes, je ne vais pas attendre des mois pour le faire. Ça n'a aucun sens. Donc, ce qui est critique, ce qui rapporte, ce qui est simple. Voilà comment je fonctionne. C'est toujours comme ça que je fonctionne. C'est simple. Ça fait 15 ans que je fonctionne comme ça. Et quand je sais faire quelque chose, je ne vais pas demander à quelqu'un de le faire. Je vais le faire moi. Tu vois, je vais pas dire à un tel, tiens, modifie-moi telle chose, fais-moi tel contenu, etc. Bah non, je vais le faire tout de suite. Je gagne du temps. Donc, c'est ça aussi. Et finalement, si tu ne maîtrises pas ça, tu es vite dépassé. Tu vois, et tu as beaucoup d'entrepreneurs qui sont vite dépassés. Il y en a, ils vont aller dans le mur. Le mur est là, mais ils y vont quand même. Tu vois, tous ceux là qui ont dit, j'ai plus de cash dans l'immobilier, il y en a eu. Mais j'y vais quand même dans le mur. Tu vois, les mecs qui ont eu l'intelligence, j'allais dire autre chose, mais l'intelligence de se séparer d'un peu de leur staff, bah, c'est de l'intelligence en fait. C'est que du bon sens. Si à un moment tu te sépares de 10, 15, 20, 30% de ton équipe, bah, c'est pour préserver les 70% restants et continuer ton business. Tu vois, ça, c'est de l'intelligence.
Et c'est pas des décisions faciles.
C'est pas des décisions faciles. C'est pas des décisions faciles. Mais c'est mieux que d'arrêter le business et d'aller dans le mur. Tu vois, il y en a trop qui se sont dit, bah, non, je continue tête baissée parce que j'arriverai toujours à lever au dernier moment. Non, c'est pas ça, la réalité économique. La réalité économique, c'est qu'à un moment, il faut prendre des décisions et des décisions pas faciles.
OK. Et justement, ces trois points que tu as dit, tu les as un peu trouvés toi-même à partir de ta propre expérience ou est-ce que tes mentors, ils t'ont un peu aidé justement, orienté dans ces... T'as vu qu'ils faisaient comme ça plus ou moins aussi
Non, ça, c'est principalement l'expérience. Si je retiens un truc de mes mentors, surtout d'un Xavier, c'est la gestion du temps.
La gestion du temps,
Ah ouais, le mec est un génie là-dessus. C'est-à-dire qu'il va... Pareil, il va avoir des temps quali, il va pas se laisser submerger de trucs de merde. Parce que la réalité, c'est que si tu es un entrepreneur et que tu fais tout ce qu'on te demande, tu réponds à tout le monde, tu fais tout ce qu'on te demande, tu fais que des trucs de merde. Et tu ne te focuses pas sur ton business. Traiter par email. Apprendre à traiter par email, c'est super important. Tu gagnes un temps fou. Pourquoi tu gagnes un temps fou? Parce que les gens en face vont se faire un effort de synthétiser quelque chose, un sujet, une demande. Et d'être plus concret, plus compréhensible. Plutôt que de la réunionite, plutôt que des tas de calls, plutôt que des tas de rendez-vous, un simple email. Et là, tu vois tout de suite si le truc est pertinent ou pas pour toi.
Et plutôt que du WhatsApp aussi?
Non, WhatsApp.
J'ai vu un entrepreneur à Portugal, lui, il n'utilise pas d'email.
Franchement, un WhatsApp, un Telegram, Enco, c'est de l'email, c'est pareil. Tu vois. Et tu serais étonné de voir à quel point même on travaille avec du WhatsApp, du Telegram, avec les autres, ça fonctionne bien. De l'instantanéité et surtout t'es concret, t'es synthétique, alors que quand tu vas partir sur une réunion ça a parfois tendance à partir dans tous les sens, quand tu vas partir sur un call ça a parfois tendance à partir dans tous les sens, alors que parfois avec un simple email tu résous plein de choses. Donc sur la gestion du temps, les mentors ont eu un rôle important. Sur la façon de gérer une structure également, même si les visions et les stratégies peuvent être divergentes, tu vois. Typiquement, j'ai une vision très il faut faire du cash rapidement. Il y a rien de mieux que d'être indépendant vis-à-vis des fonds ou des levées. Et ça, c'est pas forcément la strate de certains mentors, tu vois, où ils se sont dit non, s'il y a du cash sur le marché, faut aller le chercher et ça te sécurise, etc. Ce qui est pas un mauvais arbitrage non plus, hein, attention. Mais pour autant, ne pas se rendre dépendant de ça. Donc, tu vois, il y a toujours un juste milieu. Ce qui est intelligent, je pense, c'est d'aller écouter les autres.
Ouais, ça, c'est pour moi, c'est le conseil que j'ai le plus appris. J'ai encore du mal à appliquer, mais...
Ah, il faut les écouter, et il faut s'imprégner de ce qu'on dit et il faut arbitrer et faire tes choix. Si tu es toi et toi-même, bah, en fait, le choix est rapide et pas forcément le plus pertinent. Alors que quand tu écoutes, parfois, tu vas écouter un truc, tu vas dire non, ça me paraît stupide. Ça va te revenir, tu vas faire finalement c'était peut-être pas si stupide et finalement entre ta vision et la sienne il y a peut-être un juste milieu. Tu vois, ça fait partie aussi des choses caractéristiques des mauvais entrepreneurs, c'est de ne pas aller parler aux autres, de ne pas les solliciter, de pas challenger des idées, de se dire on va me voler mon idée. Ça aussi, c'est caractéristique des mauvais entrepreneurs. C'est en général les premiers qui se plantent ou qui ne lancent jamais rien.
Ouais. Ok. Hyper intéressant. Tu as parlé aussi un peu de l'équilibre pro-perso. Je suis chaud qu'on en reparle un peu à la fin du podcast si on a un peu de temps. C'est toujours intéressant de creuser un peu plus. Sinon, tout à l'heure, tu disais aussi quand tu étais jeune dans tes études, la deuxième partie était meilleure parce que c'était plus pratique que théorique. Est-ce que c'est quelque chose que tu observes aussi chez les entrepreneurs qu'il faut être beaucoup plus pratique et plutôt que dans la théorie et dans la réflexion et justement pas trop suranalyser d'être un peu...
C'est pareil, il y a un juste milieu à avoir. Les gens qui vont être continuellement dans les spectatives ou dans des théories farfelues plutôt que de se... Vaut mieux se lancer, faire des erreurs, corriger que de passer 12 mois à attendre le produit parfait pour lancer. Voilà, ça c'est le meilleur exemple. Et j'en ai eu un des devs chez moi comme ça.
Ouais.
Les mecs qui disent « Non, mon truc est pas prêt, je lance pas. Non, mon truc est pas prêt, je lance pas. » Il faut le juste milieu. Le bon dev, c'est celui qui va dire « Ok, je sais faire par étapes, je sais lancer un truc qui fonctionne, je sais le corriger, je sais pivoter, je sais l'améliorer, plutôt que de me dire « Je vais faire l'ISS et après mettre en prod. » Non, tu peux y aller par briques. Et en plus, t'apprends en lançant des choses. Et constamment. Et t'apprends en écoutant tes clients. Ça, c'est la base hein, du business. Pareil, hein. Le bon entrepreneur a compris un truc, il écoute son client. Le mauvais entrepreneur, il a ses œillères, il va dans sa direction, il écoute pas le client. Et ça fonctionne pas. À un moment, ça se pète la gueule. Franchement, plus de la moitié de nos idées, de nos bonnes idées, viennent de nos clients. On les écoute. Encore cette semaine, on a eu un client qui est venu au bureau, qui nous a expliqué, qui nous a fait des retours.
Ah ouais.
Tous ces retours, c'est des bonnes idées. Franchement, que des bonnes idées. Après, à toi d'arbitrer et de dire, ok, celle-là est plus prioritaire qu'une autre. Mais il faut savoir écouter ses clients, c'est super important.
Ok, hyper intéressant. Et bon, on va dire que tu as eu, bon déjà... Xavier, il t'avait dit « lance ta boîte ». Est-ce que c'est à ce moment-là que du coup, tu t'es un peu lancé dans l'entrepreneuriat ou ça te tentait déjà avant ? Et ensuite, bon, si je ne me trompe pas, tu as eu vraiment deux gros projets entrepreneuriaux. Le premier que tu as revendu au groupe Prisma Media et ensuite le deuxième Manager One qui était peut-être entre guillemets un peu plus sympa à lancer vu que tu avais un peu d'argent de ta première revente alors que le premier, tu avais peut-être un peu moins d'argent. On peut essayer de se focaliser un peu sur ces deux projets, mais on va pas avoir le temps d'aller trop en détail dans chacun des deux. Donc, est-ce qu'il y en a un que tu as envie de plus développer que l'autre ?
Écoute, le Téléloisir.
Téléloisir, ouais.
C'est une application qu'on lance donc en 2011. On se dit, on va reprendre finalement des super fonctionnalités qu'on a développées chez Free, faire un programme télé avec une super expérience utilisateur et une super ergonomie et reprendre une marque, moi, que je considère forte, Téléloisir. Parce que moi, quand je suis gamin et que je vois Téléloisirs, pour moi, c'est une marque super forte. Enfin, moi, je suis admiratif de toutes ces marques que les gens arrivent à monter, qu'ils arrivent à faire connaître. Je trouve ça incroyable. Tu vois, que tu arrives à faire des trucs qu'une personne sur deux connaît. Tu prends une marque comme Téléloisirs, une personne sur deux connaît cette marque. Moi, quand je rentrais le soir du bureau et à 19h, entre 19h et 20h, tu avais quand même 800 000 personnes connectées en même temps à l'application. Quand je rentrais chez moi, bah, autour de moi, ils étaient tous sur Téléloisirs dans le métro. Enfin, c'était une fierté incroyable. Donc, c'était une super aventure. Sauf qu'à un moment, la réalité, c'est qu'on est mono-client. Donc, quand t'es mono-client, bah, ta sortie, c'est quoi ? C'est de revendre à un concurrent qui en a marre. Genre, à l'époque, Télé 16 jours, qui dit, bon, bah, moi, j'en ai marre de cette start-up qui fait l'application de Téléloisirs. Ils sont en train de nous couler. Donc, on va aller les racheter. Où tu revends finalement avec le propriétaire de la marque, en l'occurrence Prisma. Donc la sortie est assez simple et évidente, c'est soit tu fais quelques centaines de milliers d'euros de résultats toute ta vie parce que tu bosses pour un tiers et finalement tu retombes sur ton métier d'agence que tu faisais avant, ou tu vends et tu passes à autre chose. On a vendu, on est passé à autre chose. On a pris un peu d'argent, mes associés ont pris un peu d'argent et ça te permet de te lancer dans une nouvelle aventure dans de meilleures conditions. Sur Manager One, on a eu des propositions de rachat qu'on a refusées parce qu'on avait fait cet exit auparavant. Et c'est beaucoup plus facile de refuser des propositions quand tu as déjà un peu d'argent, quand tu as déjà un appartement et que tu as les choses de base finalement utiles à ta vie. Bien évidemment que si j'avais pas vendu j'appelle ça télé-loisir, mais pas vraiment télé-loisir, ma structure, la réflexion aurait été tout autre. Tu vois. Et on en revient finalement au pro-perso. Le contexte de ta vie perso va faire que tu prends des décisions sur le pro qui sont à chaque fois différentes. Mmh. Tu vois. Quand on m'avait proposé beaucoup d'argent au début de l'aventure Manager One, j'avais qu'un enfant. Aujourd'hui, j'en ai trois. Si on me propose la même chose aujourd'hui, j'aurais peut-être pas la même réflexion. Donc c'est super. Le pro et le perso s'impliquent tellement sur tes décisions. Voilà. Chaque aventure est différente. Le contexte de chaque aventure est différent. Et ça, on sensibilise pas non plus les gens. On leur explique pas que leur vie perso va forcément jouer un énorme rôle sur la vie pro. Tu vois. Et quand t'es bien sur le perso, bah forcément ça se ressent sur le pro. Et vice versa. Quand le pro devient compliqué, t'es probablement plus con avec tes enfants et avec ta femme. Ça, c'est la réalité. Et l'inverse est vrai. Et ça, on te l'apprend pas. C'est la vie qui te l'apprend, c'est l'expérience, c'est un peu l'aventure de la vie. Alors, on est en plein dedans, hein, clairement. Voilà. Donc, il faut savoir aussi prendre du recul. Ça, c'est super important, finalement. Parce que quand t'as une merde sur le pro, il faut que t'aies du recul pour que ça impacte pas le perso. Quand t'as une merde sur le perso, il faut pas que ça impacte le pro. Voilà, il faut que t'aies ce recul, c'est clé.
Bah d'ailleurs, on dit souvent que beaucoup d'entrepreneurs sont très seuls, que la solitude chez les entrepreneurs, c'est un peu le plus élevé. J'avais vu un interview de Brian Chesky, le fondateur de Airbnb, où il disait qu'il était très seul, etc. Bon, alors qu'en plus, il a lancé une entreprise communautaire, mais t'en penses quoi de ça? Comment tu penses de...
C'est pareil. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse là-dessus. Hein. T'as des gens qui sont faits pour être avec des associés, d'autres pas. T'as des gens qui sont faits finalement pour avoir des cofondateurs avec toi et qui vont t'aider. Et d'autres qui vont juste avoir besoin de solliciter des associés ou d'autres personnes pour avoir des feedbacks. Il n'y a pas de bon ou mauvais modèle. T'as des gens qui ne sauront pas entreprendre seuls. T'as des gens qui auront besoin d'être accompagnés, auront besoin d'avoir un associé. T'as des gens qui vont avoir un ressenti de solitude, d'autres non, en entrepreneur individuel, etc. Il n'y a pas de règle, j'ai envie de te dire. Moi, j'ai fait le choix de dire, ok, je crée ma structure, je fonde ma boîte, après je donne des parts à des gens avec qui j'ai envie de bosser.
Ouais, pour les deux, tu parles des deux boîtes là,
Pour Manager One.
Pour Manager One.
Je crée la structure, je donne des parts à des personnes avec qui je bossais dans mon aventure précédente.
Ok.
Voilà. C'est des cofondateurs à part entière. Voilà. Mais l'arbitrage, je le fais moi. Et c'est pareil. Si à un moment, t'as trop de monde autour de la table pour arbitrer ou pour décider, tu ne décides plus de rien. Tu vois, c'est le symptôme des grosses boîtes. T'as 10 mecs qui ont le même poste, t'as 10 mecs qui doivent prendre la même décision, plus aucune décision n'est prise, c'est très long. Encore une fois, je préfère prendre des mauvaises décisions que ne pas en prendre du tout.
Ouais,
c'est super important. Ouais.
Ok, et donc du coup sur les débuts de Manager One, on peut en parler un petit peu plus en détail. On a un peu de temps. Donc t'avais quand même un peu d'argent de ton aventure passée, mais pour créer une banque finalement, déjà d'un point de vue réglementaire, il y a des licences, etc. J'imagine t'as fait le choix de quand même démarcher d'autres banques pour t'associer et devenir un peu leur boîte digitale.
Moi, mon premier réflexe au moment où je me dis je vais créer une banque en ligne pour les professionnels, c'est de m'associer à une banque. Donc, tu vas voir ta banque. Donc, en l'occurrence, j'étais voir la BNP. Je leur ai dit, créons ensemble une banque en ligne pour les professionnels parce qu'il y a un vrai manque sur le marché. Votre interface, elle est nulle. Et j'ai encore des comptes à la BNP. Je peux te dire que l'interface est nulle. Elle fait peur.
Là, au Portugal, c'est encore pire.
Je ne comprends rien. Parfois, je me connecte sur l'interface. Je me dis, c'est pas possible.
Ouais.
C'est pas un entrepreneur qui a créé cette interface. Voilà, c'est ça le problème. Donc, je me dis, je vais aller m'associer à la BNP. Donc, je vois les équipes de la BNP. Ils me disent, écoute, on est un gros paquebot. Il nous faut 2-3 ans à intégrer ce projet à la roadmap. Et encore, rien ne me garantit qu'on aille au bout. Je dis, ça va pas le faire. Je vais voir HSBC,
okay.
qui était sur les Champs-Élysées à l'époque. Et là, je tombe sur un mec formidable, qui s'appelle Sébastien Guillot, super jeune, super smart, qui présente le projet, qui essaye de le sponsoriser, qui essaye d'avoir l'adhésion de la DSI, etc., des équipes. Sauf qu'au bout de 6 mois, il s'est strictement rien passé. On n'a lancé aucun développement. Et là, il me fait comprendre que ma plus grande chance un jour de bosser finalement avec HSBC, c'était de trouver un moyen de lancer ce projet et de le faire racheter un jour, une fois qu'il était live. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je me dis, OK, les grandes banques, finalement, c'est très compliqué. Très compliqué de bosser avec une grande banque. Le seul moyen de lancer ce projet, enfin, pas le seul, les seuls moyens, il y en a deux. C'est soit tu vas t'adosser finalement à ce qu'on appelle une solution BaaS, Banking as a Service, type Trésor. Et donc, tu t'appuies sur eux pour gérer la tenue de compte, mais tu es limité en termes de services. Soit tu vas t'associer à une petite banque. Et donc, en France, objectivement, quand je me lance en 2016 dans la recherche du partenaire idéal, il reste moins de 5 banques indépendantes.
Ah
ouais.
Ok.
Il restait Martin Morel, Rothschild, Delubac, BAMI et Banque Wormser Frères.
Et Rothschild, ça serait considéré comme une petite banque. En fait, quand tu dis
petite
banque,
c'est
banque indépendante.
Ah oui, t'as une petite banque indépendante chez Rothschild, attention, ouais.
D'accord,
t'as, ok. T'as deux entités. Et donc, je vais contacter la banque Martin Morel, qui me dit, ton sujet est chouette, mais pas du tout d'actualité chez nous, on est en train de fusionner avec Rothschild. Bon voilà, il y en a cinq, j'en élimine déjà deux. BAMI, c'est dans le sud de la France, donc je me voyais mal à commencer à aller faire des allers-retours. Donc en gros, il restait Delubac et Banque Wormser Frères. Je connaissais ni l'un ni l'autre, hein. Ça aurait pu être l'un, ça aurait pu être l'autre. Il se trouve qu'une personne assez proche de moi me dit connaître le président de la Banque Wormser Frères. Et donc, le rendez-vous est pris quasiment pour le surlendemain avec eux. Et ça va très vite. Je rencontre Alain Wormser et Marc Wormser. Le projet les intéresse. Ils étaient sortis de l'opérationnel d'un produit qui s'appelle Landix Feu October.
D'accord. Ouais, ouais,
voilà. Okay. Ouais. Et donc, ils me disent, on a de la bande passante pour bosser dessus. Je pense que objectivement la moitié de la banque n'y croyait pas au projet, l'autre moitié y croyait. Aujourd'hui, avec le recul, on peut pas appeler ça un succès, mais ça génère du résultat, donc tout va bien, donc tout le monde est heureux. Je suis tombé sur des entrepreneurs, au-delà d'être des banquiers, et on s'est adossé finalement à la banque Wormser Frères pour créer et porter ce projet Manager One et se lancer opérationnellement. Et c'est une banque, un établissement de crédit, c'est-à-dire le plus haut niveau d'agrément possible, ce qui te permet de tout faire. Quand je dis tout faire, c'est quoi? Ça va de la société immatriculée à la société en cours de création, la société en cours de création ayant besoin d'une attestation de dépôt de capital pour démarrer son activité. Les attestations d'augmentation de capital, les comptes séquestres pour divers types d'opérations, etc. Donc c'était important pour moi de m'adosser à une banque. Et donc on a commencé l'aventure avec la banque Wormser Frères. Et c'est le bon partenaire. C'est le bon partenaire parce que ça te permet d'avoir tous les services bancaires possibles et imaginables. Ils sont un peu plus restrictifs sur les sujets compliance, conformité qu'un trésor. Mais c'est normal. C'est normal. C'est leur agrément, c'est leur conformité, c'est leur compliance, c'est leur tenue de compte. Et donc, tu dois trouver le juste arbitrage, le juste équilibre entre ce que tu proposes et l'acquisition de clients. Donc, très rapidement, on a compris qu'il fallait aller sur les typologies de clients un peu plus établies finalement. PME, ETI, plutôt que de prendre monsieur et madame tout le monde avec tous les risques que ça a. Aujourd'hui, on a, je pense, les meilleurs résultats, je parle en termes de résultats, bénéfices du marché.
Ouais, ok.
On gagne de l'argent. Gagne de l'argent. Je pense qu'on est peut-être les seuls, donc c'est facile. On gagne de l'argent. On est probablement moins connu que les autres, mais parce qu'aussi on ne dépense pas 20, 40, 50, 100 millions par an en termes de marketing, de pub, etc. Parce qu'on va chercher des clients plus quali. Parce qu'on est adossé à une banque historique, j'ai envie de te dire, une agilité qui est différente, mais qui est très axée sur la rentabilité. Et tant mieux, c'est vachement bien pour nous. Parce que regarde, quand le marché se retourne comme aujourd'hui, où les levées sont plus difficiles, quand tu gagnes de l'argent, tu as un peu le roi du pétrole. Tu n'as pas besoin de te soucier d'aller chercher du cash d'une façon ou d'une autre. Si demain je vais chercher du cash, c'est pour accélérer, pour aller plus vite sur des partenariats stratégiques, pour aller chercher encore plus de revenus, etc. Mais pas pour survivre, pas pour faire tourner la boîte, pas pour combler le cash que je crame.
Donc ça soit clair.
Voilà.
Et Parce que justement, t'as, donc l'intérêt de s'adosser à une banque comme ça, pour vous, c'était principalement les licences, les agréments qui étaient déjà en place, gagner du temps, etc. Mais est-ce que tu avais quand même comparé en faisant, tu aurais pu imaginer faire une levée de fonds classique, je sais pas, levée de, peut-être qu'il faut 2 millions pour lancer une banque, tu
Bah,
lances 2 millions, tu...
t'en as un qui s'est lancé, qui a été chercher l'agrément bancaire.
Ouais, voilà, le chercher.
Et ils sont arrivés 3 ans après tout le monde. Ils ont très peu de clients aujourd'hui. Le positionnement n'est pas simple. L'agrément a un coût en termes de gestion, entre guillemets, de l'agrément, les contrôles que tu dois faire, les équipes que tu dois avoir en place. Donc, c'est un arbitrage à faire. Donc, bien évidemment qu'avoir son agrément, c'est la plus grande des libertés, ça te permet d'agir vite. Peut-être que demain, on ira chercher l'agrément. Peut-être qu'on ira devenir indépendant, etc., et que ça fait partie du sens de l'histoire. Mais quand on a démarré, ce qui me semblait le plus smart, c'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien,
Ouais, non, mais ça, ouais.
c'était d'essayer de démarrer vite. C'était le momentum. Et d'ailleurs, tu as peut-être 10 banques en ligne qui se sont lancées en même temps, en 2016-2017 pour les pros. Sur les 10 qui se sont lancées, on doit être plus que 3. Une seule a gagné de l'argent et plus que trois sur le marché. Une qui est à vendre, qui a été achetée, qui est de nouveau à vendre. Une qui va probablement essayer d'aller chercher l'IPO parce que le next step est compliqué. Enfin, marché pas facile. La réalité, marché pas facile. Au démarrage, on a été chercher un peu d'argent parce que de toute façon, quand tu te lances sur des schémas de banque en ligne pour les professionnels, t'es pas rentable du jour au lendemain. Tant que t'as pas une base critique de clients, tu ne peux pas gagner d'argent. Donc, tu es obligé d'aller lever un peu au démarrage.
Et du coup, bah, est-ce que déjà tu penses que ça a été essentiel de parler directement au président plutôt que passer par des employés, le responsable des acquisitions là-bas, etc. Et ensuite, est-ce que tu peux essayer de te reprojeter dans ton premier rendez-vous avec eux? Comment tu t'y es pris? Bonjour, qu'est-ce que tu lui as présenté? Un PowerPoint et tu lui as dit voilà,
Je me souviens de ce rendez-vous comme si c'était hier. C'est pas très loin, c'était au 13 boulevard Haussmann. Je me retrouve dans le bureau d'Alain Wormser. Après, en 2016, quand je le rencontre, c'est une petite banque. Donc tu vas pas tomber sur le directeur des
Ouais,
partenariats ou je sais pas quoi. Tu
c'était
tombes tout
déjà
de
une.
suite sur le DG ou le président. Hein.
Ok.
Vu la taille de ces banques, c'est des banques à taille humaine.
D'accord.
Donc c'est eux qui arbitrent. Et on en revient finalement à c'est quoi un bon entrepreneur, un mauvais entrepreneur. Le bon entrepreneur, c'est celui qui va prendre justement 30 minutes pour me recevoir et saisir une opportunité. Je pense et j'espère, tu vois, que quelqu'un comme Alain Wormser, Marc Wormser, bah, se disent, ouais, on a été smart de prendre ces 30 minutes parce qu'aujourd'hui, en termes de résultats, c'est concret. Et c'est ça un bon entrepreneur, encore une fois, c'est celui qui va prendre du temps. Donc, pour en revenir finalement à ta question, ce jour-là, je m'en souviens comme si c'était hier. Tu présentes ton projet, tu présentes l'idée. Tu présentes ton modèle économique parce que ça les intéresse de savoir comment tu vas gagner de l'argent quand même. Et surtout, ton track record, ça joue. Si tu arrives, tu as planté 4 boîtes, c'est ennuyeux. Si tu arrives, tu viens de prendre un peu d'argent en vendant ta boîte et en plus, bon, bah, tu as la chance d'avoir comme mentor 2, 3 mecs un peu connus et sexy, c'est plus facile, mais bien évidemment. Je suis né dans le 93, j'ai grandi dans le 93.
Ouais, ça, on n'a pas dit en intro d'ailleurs.
Je vis dans le 16e. Je suis passé du 93 au 16e. Je viens de nulle part. Ma femme, c'est pareil. Tu vois, on est vraiment des gens qui sont venus de zéro. Donc, n'importe qui peut réussir. Ça, c'est la réalité. Mais encore, faut-il se donner les moyens? Il faut y croire, tu vois. Si tu prends Xavier, je crois qu'il a grandi à Créteil. Son père ou sa maman, je sais plus, je crois, un des deux était comptable. Pas prédestiné non plus à être un des plus beaux entrepreneurs français, si ce n'est le plus beau entrepreneur français aujourd'hui.
Ouais, même l'Elon Musk français un peu.
Donc il faut te donner les moyens. Voilà. Clairement, il faut la provoquer la chance. Il faut saisir les opportunités. Ça, c'est super important, tu vois. Et encore une fois, trop de mauvais entrepreneurs ne savent pas saisir les opportunités. Ça, c'est la réalité. Mais ça vaut aussi pour quelques salariés, hein.
Mais
Certains salariés ne vont pas aller saisir les opportunités, ne vont pas changer de boîte à un moment alors qu'ils ont la chance de le faire, etc. Ça vaut pour tout le monde.
Quand tu dis mauvais entrepreneur, est-ce que selon toi c'est destiné entre guillemets à vie ou tu c'est
Ils
un
finissent
instant T?
par se planter. Moi, j'ai rarement vu un mec où je me suis dit, c'est un tocard et ça te fait une success story. Vraiment.
Mais tu vois, tu te dis pas, il est peut-être à une phase de, je vais dire, il a 30 ans, il est, ses projets n'avancent pas, etc. C'est un instant T, mais peut-être qu'il va réussir à apprendre dans un second temps et à évoluer positivement.
C'est un état d'esprit. Si déjà, le point de départ, t'as pas le bon état d'esprit, ça peut pas changer du jour au lendemain.
Ok.
Vraiment. Tu vas vivoter. Dans le meilleur des cas, tu vas vivoter. Tu vas faire quelques boîtes qui gagnent un peu d'argent. Mais entre faire une grande réussite, un Iliade, et vivoter, il y a un monde, quoi. Faire une boîte qui tourne, j'ai envie de te dire, à partir du moment où t'as un peu faim, c'est accessible à tout le monde. Mais ça fait pas de toi un grand entrepreneur. Et encore une fois, il n'y en a pas beaucoup de grands entrepreneurs en France. Et c'est dommage, et ça manque. Il en faut plus.
Ok. Et juste encore en 30 secondes, toujours sur le début de Manager One, si tu compares, parce que tu parles sur LinkedIn, d'ailleurs, je lis souvent tes posts LinkedIn, où tu parles, tu en as parlé un petit peu à l'instant, des valorisations de la French Tech, etc., les levées de fonds qui servent finalement pas forcément à financer de la rentabilité. Tu par rapport à une levée de fonds classique où tu aurais levé 2 millions, tu donnes 20% du capital, j'en sais rien, avec Alain Wormser, tu lui dis voilà, on va avoir les licences, accepter peut-être des ressources opérationnelles du staff, etc. Et en plus de ça, vous injectez du cash pour prendre la boîte.
Ils n'ont pas injecté particulièrement de cash. Par contre, moi, je leur ai donné un petit peu de capital.
D'accord.
Pourquoi ? Parce que Day One, l'histoire, c'était quoi ? Vous allez nous permettre de créer une belle aventure. En contrepartie, vous allez avoir un peu de capital. Pourquoi ? Parce que potentiellement un jour on va se faire racheter, donc vous profiterez de ce rachat parce que vous nous avez permis d'opérer, ou demain on va prendre notre indépendance et donc à travers ce capital vous continuerez de profiter finalement de ce qu'on a construit ensemble à travers des parts de ce capital. Voilà, donc c'était important de leur montrer de la reconnaissance, et ça aussi ça fait partie à mon avis des qualités d'un bon entrepreneur, c'est de savoir être reconnaissant. Il y en a très peu. Moi, tu vois, dans l'histoire capitalistique de ma boîte, il y a des gens qui sont sortis, ils ne sont pas particulièrement montrés plus reconnaissants que ça, alors qu'ils ont pris 100, 200, 300, 400 000 euros. Ce n'est pas anecdotique quand tu prends 400 000 balles en quelques années. Moi, ça fait partie des valeurs super importantes, c'est la reconnaissance. Être juste et être reconnaissant, pour moi, c'est deux valeurs super clés.
Ok. Sinon, du coup, t'as dit donc que tu viens du 93, maintenant tu vis dans le 16e. Ouais. Comment tu vis un peu, comment tu fais pour garder entre guillemets les pieds sur terre et te rappeler d'où tu viens, et aussi voilà, qu'est-ce qui t'anime encore au quotidien, pourquoi tu cherches à entreprendre, c'est quoi un peu ta mission
Je pense que c'est une part d'éducation et du fait aussi de la personne avec qui je vis quotidiennement, qui fait qu'on se stimule et qu'on est moteur l'un pour l'autre constamment. C'est peut-être aussi ce qui caractérise un entrepreneur, c'est qu'on a faim constamment. On pourrait arrêter ou ne pas relancer de projet, ou ne pas monter de nouveaux partenariats, ou ne pas chercher de nouveaux clients. On pourrait vivre avec ce qu'on fait aujourd'hui largement, mais la réalité, c'est qu'on a constamment faim. On en veut toujours plus, on n'est pas satisfait de ce qu'on a construit. Pour moi, j'ai une belle boîte, ça fonctionne bien, mais c'est pas encore une réussite. Voilà. Je me dis, je suis peut-être à 2% du chemin sur cette boîte.
Ah ouais, 2%.
Okay. Je suis à 2% du chemin, alors qu'on a une boîte qui fait du résultat, on a des beaux clients, on a créé une super solution, j'ai une super équipe, mais pour moi, j'ai fait 2% du chemin. Il y a tellement de choses à faire. Et peut-être que cette boîte va être un objet de transmission à mes enfants. Peut-être que je me ferai racheter parce qu'à un moment, j'aurai une offre que je pourrais pas refuser. J'en sais rien. Je me projette pas. J'ai pas créé cette boîte en me disant, je vais faire un coup.
D'accord.
T'en as plein qui vont créer une structure et dire, moi, je vais créer une banque en ligne parce que là, c'est super tendance et je vais la revendre. Là, je vais créer une banque verte pour les particuliers parce que c'est tendance. Parce que là, je vais créer une banque pour les ados. J'en ai vu 15, hein. Franchement, j'en ai vu 15 passer en 10 ans. Non, on n'est pas dans cet état d'esprit-là. On est dans un état d'esprit de construire une brique à la fois, tranquillement, doucement, sûrement. Et on le fait, j'espère bien. En tout cas, quand j'ai les feedbacks de mes clients, j'ai l'impression qu'on le fait plutôt bien. Et on n'a pas envie de s'arrêter parce qu'on a encore plein d'idées.
Mais d'ailleurs, ouais, ce que tu viens de dire, enfin, comment tu fais pour réussir à rester focus et ne pas te de diversifier, parce que par exemple justement Xavier Niel, on en a parlé un peu, lui il investit, il est bon, c'est Iliad, Free, etc. Ouais. Mais en parallèle il investit dans 10 000 startups,
à un moment, etc. À un moment il s'est défocus, et ça il te le dira lui-même. Et il est revenu à ses fondamentaux, il s'est refocus, et c'est normal, c'est la vie. Parfois t'as des choses qui vont popper dans le perso et qui vont changer ton univers. Il faut aimer ce qu'on fait. Ça, c'est le point de départ. Quand tu prends du plaisir dans ton pro, c'est facile. Ouais. Voilà. Tant que j'aime ce que je fais, tant que j'ai des idées, tant que j'ai des nouvelles fonctionnalités, tant que j'ai des retours satisfaisants de mes clients, ça fonctionne. Et ça, c'est la meilleure de tes énergies, c'est d'être en contact avec tes clients, aimer tes clients. Encore là, une heure avant de venir te voir, j'ai un client qui m'envoie un mail, je m'occupe de son truc, tu vois, j'ai pas balancé au support en disant traiter le truc, je l'ai traité moi-même. Et je pense que pour certains, c'est surréaliste, mais moi, ça me semble juste normal. Il faut faire le boulot, il faut bien le faire, il faut être à l'écoute de tes clients, il faut traiter les demandes. Et ça rejoint finalement le mail que j'envoie à Xavier en lui disant, bah tiens, j'ai une personne de mon équipe qui a un problème de Freebox, est-ce que tu peux faire suivre, et qui le fait naturellement. Et en fait, si ça commence à te faire chier, c'est qu'il faut que tu passes à autre chose. Mmh. Quand tu prends du plaisir et que tu trouves ça normal de le faire, bah, tout va bien, ton business, il prend forme et il va bien tourner.
Ok. Et d'ailleurs, je suis juste curieux très rapidement, entre tes deux business, entre télé-loisirs et Manager One, tu as eu une pause d'un an si je me... enfin, t'as fait,
quasiment pas, finalement. J'étais quasiment en espèce de burn-out chez Prisma Media. Mais j'ai vite compris que le fonctionnement d'une boîte aussi grosse, c'était plus de 1200 personnes, et gérer une boîte de 50 personnes, c'était pas pareil. Ça allait pas aussi vite. C'est-à-dire que des prises de décision, moi, ce que j'adore dire, quand j'étais chez Prisma, des choses qui auraient dû me prendre 2 jours prenaient 2 semaines. Voilà. Et donc, c'est pas ma façon de bosser, tu vois.
Ouais, t'aimes bien quand...
Notre vie est trop courte pour se faire chier, à perdre du temps. Non, mais c'est vrai.
Ah, je suis complètement d'accord.
Donc non, j'ai pas de temps à perdre. Je fais les choses que j'aime, je bosse avec les gens que j'aime. S'il y a un moment je n'aime pas la personne, autant s'en séparer. Voilà, trouver une sortie. On n'est pas là pour se prendre la tête. On est là pour faire les choses bien, pour prendre du plaisir dans ce qu'on fait.
Top. Dans mon podcast, on parle souvent d'immobilier. Je sais pas si je t'avais dit, mais j'ai aussi publié un livre qui s'appelle « Financer ses rêves d'aventure grâce à l'immobilier ». Et j'ai la plateforme d'immobilier. Qu'est-ce que toi tu penses de l'immobilier? Est-ce que déjà tu y investis?
La réalité, c'est que les plus smart font de l'immobilier. Ça.
Les plus smart.
Ouais. Moi, ça me passionne pas de faire de l'immobilier parce que t'as l'impression que c'est super passif. Tu vois, que tu vas pas t'impliquer au jour le jour dans le truc. Mais la réalité, c'est que c'est ce qui rapporte au final. On peut prendre toutes les personnes qu'on a citées là, au cours du podcast. Font toutes de l'immobilier, hein, et de façon très intelligente. Donc, écoute, j'ai fait une acquisition il n'y a pas longtemps, au mois de février, pour monter un centre de santé avec ma femme.
D'accord.
Ça fait partie d'un projet patrimonial, ça fait partie d'un projet entrepreneurial. On mixe les deux.
Mmh.
On fait de l'immo, mais dedans, on va mettre des médecins, on va faire un joli centre de santé, etc. J'ai vocation à en faire. Encore faut-il avoir les moyens suffisants pour en faire. Tu vois, j'ai vendu ma boîte, j'ai acheté un appart. Ça me semblait être du bon sens. J'ai eu un peu de cash grâce à Manager One. On a été acheter un local pour monter un centre de santé. Et en fait, je vais en faire. La réalité, c'est que j'en ferai. Aujourd'hui, j'ai pas suffisamment de profondeur de cash pour en faire. Mais dès que je peux le faire, j'en ferai. Pourquoi ? Parce que je me dis, il y a rien de mieux que mes enfants commencent la vie avec un petit appart. Je les mets à l'abri de ça. Ça fait des revenus d'une façon ou d'une autre. Donc pour moi, l'immobilier, c'est du bon sens quand t'as du cash. Même quand tu n'en as pas, si tu trouves les bons leviers.
Avec les bons leviers.
Voilà. Donc, sur le long terme, c'est fiable. Donc, voilà, ce n'est pas ce qui me touche particulièrement parce que je suis quelqu'un qui aime l'action, qui aime les projets. Mais bien évidemment que le jour où je peux investir dans de l'IMO, parce que j'ai les moyens de le faire, je le ferai d'autant plus parce que c'est quand même assez safe.
Ok, top. 3-4 petites questions juste pour terminer que tu peux répondre en 30 secondes. C'est des petites questions rapides, on va dire.
Ouais.
Un regret que tu aimerais ne pas avoir quand tu es à la fin de ta vie, on va dire vers 65-10 ans, quand tu regardes en arrière.
J'en ai aucun. Parce que, encore une fois, la philosophie de ma vie, c'est de me dire profite de chaque jour. Demain, tout peut s'arrêter. Voilà. Si, peut-être qu'un jour je me dirais, j'ai peut-être pas passé assez de temps avec mes enfants, mais
ah, okay, ouais.
Ça, c'est le seul truc que chaque personne un peu saine dans sa tête devra se dire à la fin de sa vie, quoi. Et, mais j'en ai déjà conscience aujourd'hui, donc je passe beaucoup plus de temps avec mes enfants déjà aujourd'hui que je ne le faisais il y a quelques années. Alors que la bascule de travail est beaucoup plus importante aujourd'hui, c'est ça tout le paradoxe.
Parce que d'ailleurs, on n'a pas trop dit sur l'équilibre pro-perso, mais est-ce que t'as l'impression que tu travailles beaucoup, tu fais des gros horaires, tu rentres à 23h le soir,
non,
plutôt à
20h
et le
week-end, je ne comprends même pas les gens qui finissent à 23h. Je ne sais pas ce qu'ils foutent. Ça, c'est un gros débat que j'ai avec des gens. Je ne sais pas ce qu'ils font. Non, j'essaye d'être à la maison tôt, j'essaye de faire les devoirs avec ma petite, j'essaye de m'en occuper. Voilà. Et c'est normal. C'est la chose la plus importante de ta vie, finalement, c'est cette transmission. Hein.
Ok. Un ou deux livres qui t'ont impacté, si tu lis?
Ouais. Bah, alors moi, j'ai deux auteurs que j'aime beaucoup. C'est Christian Jacques et Eric Emmanuel Schmitt. Si j'en ai un qui m'a impacté dans ma vie, pas une lecture récente, mais une vieille lecture, c'est La part de l'autre.
La part de l'autre.
Ouais. Peut-être parce que aussi j'ai mes racines particulières, mais La part de l'autre, c'est l'histoire d'Hitler. Et en gros, Eric Emmanuel Schmitt dit, qu'est-ce qui se serait passé si finalement il avait été accepté aux Beaux-Arts?
Ah oui, j'en avais entendu parler.
Voilà. Et donc, c'est aussi un peu clé pour un entrepreneur, c'est un petit événement peut changer l'histoire d'une boîte. Tu vois. On n'aurait peut-être pas eu toutes ces horreurs s'il avait été accepté aux Beaux-Arts. Le mec voulait être artiste, peut-être que la vie aurait été différente, j'en sais rien. Bref. Mais voilà, c'est comment un micro-événement, un événement dans une vie peut tout changer.
Ouais, c'est hyper intéressant ça. Mais j'ai contacté il y a pas longtemps quelqu'un qui a fait 30 ans de prison parce qu'il a fait des bêtises dans sa. Il a écrit un livre, il s'est retrouvé en prison, etc. Et moi, en fait, j'essaye, je sais pas si c'est bien, mais toujours inconsciemment de chercher le bien en chacun. Même des gens qui. Plutôt me focaliser sur leur positif, leur qualité. Essayer d'être bienveillant. Mais je sais pas si c'est bien, des fois tu peux te faire avoir aussi. Mais... Et une question du dernier invité. Qui ne savait pas que ce serait toi qu'on aurait aujourd'hui. Lui, il est expert en intelligence artificielle et il disait, donc pour le prochain invité, toi, comment est-ce que tu vois l'impact de l'intelligence artificielle générative, donc par exemple ChatGPT, sur ton travail maintenant et dans 5 ans?
Alors, maintenant, pas grand-chose, parce qu'on est en plein début de bouleversement. Par contre, dans 5 ans, la réalité, c'est que l'intelligence artificielle va être omniprésente. On est dans une grosse révolution. Je crois que la France ne mesure pas à quel point on est dans une grosse révolution parce qu'on en a encore à se poser des questions sur comment arbitrer, comment légiférer, comment encadrer, là où d'autres sont en train de mettre de l'argent sur la table pour développer à fond les ballons. La réalité, c'est que la moitié des jobs vont être impactés d'une façon ou d'une autre par l'intelligence artificielle. À un moment, vont se reposer les questions de qu'est-ce qu'on fait de toutes ces personnes qui n'ont plus de boulot. Est-ce qu'on va trouver de nouveaux boulots comme ça a été le cas avec la révolution informatique, IT, etc., révolution industrielle, ou est-ce qu'on va avoir un vrai problème et il va falloir trouver rapidement des solutions? Alors pour moi, la plus grosse crise qu'on a actuellement, c'est la crise démographique. À un moment, il va falloir trouver une solution pour nourrir tout le monde intelligemment, pour prendre soin de tout le monde, ou encadrer tout simplement, parce que ton risque, il est là. C'est si tu ne fournis plus de job à tout le monde, comment tu fais?
Ok. Je crois qu'on arrive à... hyper intéressant, j'ai adoré. Je sais pas, c'est un dernier mot, un thème qu'on n'a pas abordé ou un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent?
Bon, écoute, je pense qu'on a été vachement exhaustif, vachement complet. J'espère que les gens ont été jusqu'au bout.
J'espère. Ouais, on faudra leur dire d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a des choses intéressantes au début et à la fin. Mais en tout cas, merci beaucoup pour ton temps, pour ton partage et prochaine.
À bientôt.
La vie est une aventure. Très rapidement, merci beaucoup pour votre engouement. N'hésitez pas à vous abonner. D'après les statistiques sur YouTube Analytics, vous êtes nombreux à regarder les épisodes sans être abonné. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça permet d'inviter encore plus de monde, de grossir le show.